Ce matin, c'est simplement un survol, hein? Par la suite, j'ai l'intention, chaque mercredi, de prendre chaque verset des Épîtres aux Éphésiens pour les étudier ensemble, afin qu'on réalise qu'est-ce qu'on est en Jésus-Christ, mais où on a mis Jésus-Christ dans notre vie. Vous savez, ça paraît simple, mais est-ce que Jésus-Christ est toujours le premier? C'est important à savoir. Mais un matin, nous lui ont dit, François a mis une cravate, moi je lui dis, c'est ma laisse. Quand je fais des mauvaises choses, ma femme me tire. Non? Ah, lui fait rire l'assemblée de Sainte-Adèle l'autre semaine avec ça, d'ailleurs. En passant les églises de La Chute, Sainte-Adèle et aussi Blainville, vous salue tous la gang. Ils sont bien heureux que je puisse aller là-bas encore, malgré ma santé, malgré mon dos et mes genoux. Mais Dieu me donne la force d'y aller, et tant que je vais avoir la force d'y aller, je vais y aller. Ils ont des besoins, comme Marc a parlé ce matin, que l'église de Bécomo a des besoins. Mais il y a beaucoup d'églises, donc une des frères Ménonites de Saint-Jérôme, le pasteur est à bout. Il nous partageait qu'il avait besoin d'aide, qu'il avait besoin de réconfort lui-même. Et l'Église, elle a diminué. Donc, il a besoin d'aide. Priez pour lui, il s'appelle André Bourque. Pasteur André Bourque, priez pour lui. C'est un homme qui arrive pas loin des 80. Donc, il a fait beaucoup d'efforts, il a travaillé beaucoup, ça fait plusieurs années qu'il est là. Donc, il a besoin de prière et d'aide. Aussi, Jean-Marc a fait une remarque ce matin que tout de suite, il y a des choses qui m'ont venu à la tête. Les femmes en premier. C'est qui est au tombeau en premier? Les femmes. Qui que Jésus a parlé en premier? Les femmes. Et n'oubliez jamais que les femmes ont une importance autant et même des fois plus que les hommes. N'oubliez pas ça. C'est très important. Dieu n'a pas pris soin d'être avec eux autres en premier pour rien. Il n'a pas fait ça pour rien. Mais ce n'est pas le sujet de ce matin. Le sujet de ce matin, avant qu'on rentre dans l'Épître, j'aimerais vous conter deux petites histoires. Une petite histoire commence comme suit. Un homme a fait son inspection sur un chantier. Tout d'un coup, il y a une explosion. Suite à cette explosion, il revient à lui et ne connaît plus ni d'Adam ni d'Ève qui est. Sa mémoire est comme effacée. Il a tout perdu. Suite à ça, il essaye toutes sortes de traitements, hypnose, psychiatre, tout ce qu'il peut penser que sa mémoire va revenir. Et par la suite, il se promenait autour d'un chantier où est-ce qu'il pensait peut-être retrouver des idées, des brides de sa mémoire. Tout d'un coup, une autre explosion, et cette explosion le ramène à sa connaissance. Là, il se connaît, il sait qui est, mais il est encore perdu parce que qu'est-ce qu'il a fait avant? Qu'est-ce qu'il était avant? Puis qu'est-ce qu'il est maintenant? Le trouble. Donc, il a besoin encore de trouver des raisons de sa vie sur terre, les raisons de qui est. Et la deuxième histoire est différente. C'est une jeune fille non sauvée. Elle rentre d'une école chrétienne que sa grand-mère a placée là. Avec les professeurs qui l'entourent, en prennent soin, elle découvre Jésus-Christ. Elle découvre Jésus-Christ et son professeur. Elle, qui est, qu'on appelle aussi son mentor, elle l'aide et elle lui donne un sujet de devoir pour qu'elle découvre, vu qu'elle a découvert Jésus-Christ, pour qu'elle découvre encore plus profondément qui est Jésus-Christ et elle, qui qu'elle est. Elle est toute jeune. Elle a besoin de comprendre et saisir qui qu'elle est. Et c'est justement lui donne l'Épître aux Éphésiens, Elle dit, découvre tout ce que Dieu est là-dedans, tout ce que Dieu a marqué pour toi et pour t'aider à comprendre qui tu es face à Dieu et face à l'humanité. Et c'est un peu pour ça, ce matin, qu'on va faire un survol de l'Épître aux Éphésiens. Ma petite sœur Yolande, on avait une petite photo. Voilà, ouf! Un bruit, oui. Ah, peut-être un trop terrain, régrandi, c'est pas grave. On voit qu'elle cherche. À vous deviner, cette fille-là, de quel film ça vient? Overcomer. C'est cette fille qui a connu Dieu par ses professeurs et qui l'ont emmenée dans l'Épître aux Éphésiens. Et je ne vous dis pas la suite. La suite, ça va être la conclusion, mais qu'on ait fait tout le tour, à tous les mercredis, qu'on va pouvoir découvrir sa conclusion. Ce matin, on va commencer par le premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens. Et avant de rentrer dans l'Épître, l'introduction ainsi faite, on va demander au Seigneur de nous aider à bien saisir et à bien comprendre cette épître qui est importante dans les livres des Écritures. Ils sont pas mal tous importants, mais il y en a qui sont plus marquants que d'autres. Donc, prions ensemble. Papa Céleste, on est heureux, Seigneur, d'être tes enfants. On est heureux, Seigneur, que tu es venu nous chercher parce que même nous, on ne te cherchait pas. On était un peu désemparés côté spirituel. On ne connaissait rien, on ne savait rien. Tu es venu à notre secours, tu es venu nous aider. Et Seigneur, tu t'es révélé à nous. Tu nous as révélé quelle sorte de personne on était, des pécheurs perdus et qui avaient besoin de ta grâce. On avait besoin de repentir. On avait besoin, Seigneur, de saisir ton pardon, ta grâce pour chacun de nous et de comprendre le sacrifice de la croix afin qu'on puisse, nous, être achetés, être sauvés, être libérés. Oui, Seigneur notre Dieu, dans cette épître ce matin, on veut se réjouir avec toi de tout ce que tu as mis dans tes Écritures, mais ce matin, on aimerait, Seigneur, que tu nous aides à bien saisir le survol de cette épître. Au beau nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne commenterai pas chaque verset parce qu'on ne sortira pas d'ici avant minuit. Ça serait un peu tard. Mais, dans le premier chapitre, les sept premiers versets est une évaluation, plus une définition du Seigneur et son Père, et de notre pardon. Dans les sept premiers versets du chapitre 1 de l'Épître aux Éphésiens, c'est ce que ça nous dit. Au verset 4, que Yolande sûrement, ça nous dit, « En lui, nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant Dieu. » Imaginez-vous, on est juste rentré dans les sept premiers versets. Et déjà, on touche au salut. On touche à ce que Dieu déjà a fait pour nous. Et on finit de commencer. Il nous parle, dans les versets 7 à 14, « En lui, nous dit que nous avons de la sagesse, de l'intelligence, connaître les mystères cachés de sa volonté, de notre héritage, et que notre salut est scellé. » Déjà, dans ce boulot, on voit ça. Je vous dis, je vais passer vite, parce qu'il y a six chapitres. Et je vais passer vite, c'est un survol. Paul, dans les versets 14 à 23, parce que c'est un épître de Paul, on parle de l'héritage, de foi. Les yeux de notre cœur nous parlent de la puissance du Seigneur et notre position dans l'Église. Ça, c'était le premier chapitre. Dans le chapitre 2, les versets 1 à 3, Paul nous fait un rappel de notre situation face à Dieu. Et nous étions des enfants de colère. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Dans les versets 4 à 10, Nous voyons que Dieu fait grâce et nous donne une position et pourquoi il nous a créés. Là-dessus, là, je vous demande de ne pas tout regarder ce matin, mais plutôt, avant qu'on arrive dans les mercredis, plutôt que vous fassiez votre petite recherche et que vous découvrez pour vous et pour ce qu'on va partager ensemble, qu'est-ce que Dieu nous dit. Donc, dans le verset 11 à 16, on nous rappelle que nous étions des païens, dans la chair, sans Christ, étrangers, sans espérance, mais régénérés par la croix de Christ, détruisant l'inimité et nous a établi la paix. Dans les versets 17 à 22, il est venu apporter la paix, un accès auprès du Père. Nous sommes citoyens des saints, une habitation de Dieu en esprit, nous dit ces versets. Dans le chapitre 3, les versets 1 à 6, Paul nous dépeint son engagement pour l'Église et pour les païens. Vous savez qu'est-ce que l'histoire de Paul? Il s'est engagé, et quand que les Juifs, les Hébreux, n'ont pas voulu que continuer avec lui, il s'est tourné vers les païens. Et dans ces versets-là, ça nous parle de son engagement, qui a été donné pour nous et par la révélation du mystère. Ce mystère révèle en ce temps et non avant, parce qu'il n'a jamais été révélé avant, il a été révélé seulement avec la venue du Seigneur Jésus-Christ, c'est que nous sommes co-héritiers par l'Évangile de Jésus-Christ. C'est important de bien saisir les versets qui sont là-dedans. Dans les versets 7 à 13, Paul, féministe par la grâce de Dieu, annonce aux païens la richesse de Christ. Ce mystère caché, voyons, je repasse la même chose, excusez-moi. Nous avons aussi découvert la liberté par la foi dont nous approchons de Dieu et de ne pas perdre courage face aux tribulations. À cause de cela, Paul fléchit le genou devant Dieu. Dans ces versets-là, 7 à 13, c'est ce que ça nous dit. Et elle nous dit de ne pas perdre courage face aux tribulations. Ça nous dit aussi que, à cause de cela, l'apôtre Paul a même fléchi les genoux devant Dieu. C'est intéressant de voir. Dans les versets 15 à 21, toujours du chapitre 3, d'être fortifié dans l'homme intérieur par l'Esprit, que Christ habite en nous par la foi, et de comprendre la largeur, la hauteur, la profondeur et la hauteur de Dieu. Et ça nous dit aussi, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toute la génération et au siècle des siècles. Amen. Le chapitre 4, les versets 1 à 6 nous exhortent à marcher digne de la vocation, c'est-à-dire avec douceur, se supportant les uns les autres et de conserver l'unité dans l'Église. Les versets 5, Yolande sûrement, 5, oui, Éphésiens 4, le verset 5, c'est ça. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Quand les gens vous parlent et vous disent qu'il y a eu toutes sortes de choses, réfléchissez à ce verset-là. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il n'y en a pas 50. Il n'y a pas 50 sortes de foi. Il n'y a pas 50 sortes de Seigneur. Il y en a un. Il n'y a pas 50 sortes de baptême, il y en a un que Dieu parle. Dans le verset 6, un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Ça en fait plusieurs tous, hein? Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous, et en tous. Vous n'avez pas besoin de le chercher bien loin. Hein? Il est là. Il est présent. Il est en vous. Il est près de vous dans toutes les péripéties ou toutes les aventures que vous pouvez vivre dans votre vie. Et en plus, il est votre Père. Dans les versets 7 à 16 du chapitre 4, on nous parle que la grâce nous a été donnée. Étant monté en haut, il a amené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Des dons aux hommes. Est-ce qu'on a commencé à chercher quels sont nos dons? Est-ce qu'on a réalisé que Dieu nous a donné des dons? Est-ce qu'on comprend pourquoi que Dieu nous a donné des dons? C'est important de réaliser ces choses-là, parce que vous pouvez vivre une vie bien tranquille dans le Seigneur, mais passer à côté d'une panoplie de bénédictions que si vous épanouissez avec les dons que Dieu vous a donnés dans l'Église, afin qu'il puisse vous bénir. Et ma petite sœur Yolande, le verset 12, s'il vous plaît. Et ces dons, il les a donnés dans un but bien précis. Et le verset 12 que j'ai pris dans le verset, le chapitre 4, entre les versets 7 et 16, le verset 12 nous dit, « Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre, du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Et le corps de Christ, ce n'est pas simplement l'Église de Saint-Just. C'est tous les enfants de Dieu nés de nouveau, sauvés par pure grâce et participants de l'œuvre de Dieu. Hein? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. L'œuvre du ministère, oui, c'est participer à l'œuvre de Dieu. Oui, c'est quand Dieu nous met quelque chose devant nous, soit quelqu'un qu'on doit parler, soit simplement faire des gestes sans parler, sans dire quelque chose, mais c'est un ministère devant Dieu, ça. Ensuite, afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, les Écritures nous aident, et dans les versets 7 à 16, il en parle, de ne pas être ballotté par toutes sortes de choses, mais de bien comprendre qu'est-ce que les Écritures disent et qu'est-ce que Dieu veut. Que tout le corps, bien coordonné, formant un solide assemblage. Vous voulez une Église solide? Vous voulez un ministère solide? Entourez-vous. Entourez-vous. Ensemble. Travaillez main dans la main avec le Seigneur et avec les frères et sœurs. Dans le but non de satisfaire votre orgueil, mais de satisfaire ce que Dieu a mis en vous. C'est-à-dire de satisfaire tout l'amour qu'il y a pour les créatures et pour ceux du dehors, autant que pour ceux du dedans. Et en celui qui est le chef, c'est qui le chef? Je vais me nettoyer les oreilles, parce que ça va mal. Qui est le chef de l'Église? Je ne sais pas pourquoi, on dirait que vous êtes tous muets. C'est Christ à l'Église. Il ne faut pas être gêné de le dire. Ou c'est comme, j'ai vu dans une histoire aussi, un autre, mais celle-là, je ne l'ai pas contée. Ou est-ce que la personne s'identifiait comme je suis professeur, j'enseigne ici, je fais ça, je suis même bénévole aussi à ça. Puis en dernier, il dit, je suis chrétien évangélique, disciple du Christ. La position qu'a mis Jésus-Christ, là, est la dernière. Est-ce que c'est ça dans notre vie? J'espère que non. Et quand on dit que le Christ est le chef de l'Église, ça veut dire aussi qu'il est notre chef. Il faut bien le saisir. Dans les versets 17 à 32, je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Est-ce qu'il y a une différence entre vous et ceux du dehors, ou moi, entre les ceux du dehors? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que c'est perceptible? Est-ce que les gens réalisent que vous avez quelque chose de différent et qu'ils veulent savoir c'est quoi? Vous savez, il y a une couple d'années, juste après la COVID, où est-ce qu'on a commencé à jouer de la guitare dehors et lire ma Bible sur la terrasse en arrière, quand que Dieu a emmené des gens chez nous et qui viennent me demander, on peut-y écouter? Est-ce que j'étais trop gêné pour lui dire, j'aime autant chanter tout seul, parce que là, c'est des cantiques d'église, c'est la Bible que je lis. Non. Je lui ai dit d'écouter, simplement. Et j'ai continué ma pratique de guitare. Et j'ai continué de lire dans ma Bible, puis ils m'ont demandé de lire tout fort. Pourquoi? Parce qu'ils avaient soif de quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Ils sont venus pour ça. Moi, je n'ai même pas fait une invitation. Tout ce que j'ai été là-dedans, c'est un instrument, un vieux tournevis, une vieille clé anglaise. Mais j'étais là et j'ai répondu à l'appel que Dieu me donnait, tout simplement. Tout le monde ici peut faire ça. Il n'y a pas d'orgueil à avoir là-dedans. Là. Il n'y a aucun orgueil. Dieu peut vous outiller quand vous en avez besoin. Et ça, il faut que les chrétiens réalisent ça. Parce que beaucoup de chrétiens se disent incapables. Et pourtant, c'est qui rend capable? C'est Dieu. Il n'y a pas d'autre. Il ne faut plus marcher comme on marchait avant. Pour que les gens réussissent à comprendre qu'il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose qui peut vraiment changer des vies. Pourquoi ils sont comme ça, les gens du dehors et les païens? Ils ont l'intelligence obscurcie par tout ce que vous pouvez emmener de l'extérieur. À cause de l'ignorance qui est en eux, qui va le reconnaître? Qui va lui révéler les choses? Dieu s'est formé un peuple pour ça. Ces enfants de Dieu sont là pour ça. Parler aux gens de l'extérieur, leur dire les vérités qu'ils devraient entendre. Et non seulement leur dire, mais les vivre pour qu'ils voient que c'est réel. Et cela, c'est à cause de leur cœur endurci. Se sont endurcis, mais dans le temps qu'ils pouvaient aller à l'Église catholique, ces gens-là ne seraient pas venus m'écouter, vous, de la guitare. Aucunement. Ils arrêtaient à leurs églises. Mais là, l'Église était fermée. Dieu avait pris tous les moyens inimaginables pour que les chrétiens puissent parler aux non-chrétiens. Et ça, c'était très important. Et Mme Yolande, le verset 20, s'il vous plaît. Merci. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Comment vous avez appris Christ? Premièrement, Jésus-Christ est venu faire quoi? Sauver l'humanité. N'est-ce pas? Il est venu sauver l'humanité. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas cette idée. Il y a beaucoup de personnes qui se heurtent, au mur qui ont devant eux. Qu'est-ce que les autres vont dire? Et malheureusement, ça est, c'est des chrétiens aussi. Qu'est-ce que les autres vont dire? Et la plupart des non-chrétiens, ils ne veulent pas, « Ah, je ne changerai pas de religion. » Mais ce n'est pas ça qu'on veut lui dire. Ce n'est pas changer de religion, c'est connaître Dieu, connaître son Fils, son sacrifice. Et tout cela, et c'est comment qu'on a appris Jésus-Christ? On l'a appris parce qu'il s'est révélé à nous. Il est venu nous trouver là où on n'était même pas capable de saisir ni de comprendre qui il était. Il est venu à notre aide, dans le fond, pour justement qu'on puisse être justifié, découvrir qui il était, découvrir qui qu'on était, des pécheurs perdus avec un méchant jugement sur la tête. L'Esprit Saint est venu nous aider afin qu'on comprenne qu'il y avait une porte de sortie, il y avait une option et que c'était le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et quand on a assimilé ces choses-là, le Seigneur nous a emmenés avec son Esprit Saint aussi, avec lui-même et Dieu, le Père, nous a emmenés dans ses écrits afin qu'on découvre qui il est, de quelle façon l'adorer, quelle façon le prier, quelle façon le remercier, le louer, et quelle façon lui emmener tout notre cœur, toute notre aide en sa présence et le lui laisser entre ses mains. C'est comme ça qu'on apprend Jésus-Christ, qu'on apprend Dieu. Et aussi, à nous dépouiller de notre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse. Combien de chrétiens y aurait ici, si tous les chrétiens qui ont passé dans cette église-là seraient là, il n'y aurait pas assez de place de l'autre côté. Qu'est-ce qui est arrivé? Notre ennemi juré, Satan, et tous ses acolytes sont venus nous tenter. Et si on a répondu à la tentation, on s'est ramassé, bien souvent, dans le péché. Et bien sûr, comme on aime convoiter, on aime ça avoir des belles choses, on aime ça passer pour quelqu'un. Mais si vous passez pour quelqu'un, passez pour un chrétien qui aime Dieu. Ça vaut pas mal plus cher que d'autres choses. Et c'est facile de se laisser entraîner. Ne pensez pas que vous êtes des super chrétiens, des super chrétiennes. Loin de là. L'ennemi est très puissant, très fort. Mais Dieu est encore beaucoup plus puissant que lui. Et bien sûr, à se dégager de ce vieil homme, du passé, des choses, mais aussi à revêtir l'homme nouveau et de ne donner pas accès au diable. Nous parle ces versets-là qu'on voit. Dans le verset 30, que Yolande a là, elle est bonne, hein? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ici, on a une belle preuve que notre salut n'est non seulement donné, mais que le Saint-Esprit le scelle. Pourquoi? Pour le jour de la rédemption. Pensez-vous que vous allez le perdre entre les deux? Non. Oubliez ça, c'est scellé par le Saint-Esprit. Et je suis pas sûr que quelqu'un peut déceler ça. Parce que c'est fait par la main de Dieu, son Saint-Esprit, et c'est pas dévisable comme ça. Dans le verset 32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnez réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » C'est vrai qu'il y a des gens qu'on aime moins que les autres, même à travers les chrétiens. On a besoin de rétablir les situations, des fois. C'est pas parce qu'il y a un péché, mais il peut y avoir un désaccord. Et ce désaccord ne doit pas durer, parce qu'il peut nous conduire au péché. Ce désaccord doit être le plus vite possible rétabli, correct. Pourquoi? Parce que là, on n'a pas vraiment une relation claire avec Dieu et avec les frères et sœurs. Parce qu'il y a un petit problème. Il faudrait le résoudre au plus vite. Parce que le plus gros problème, c'est qui l'a résolu? Parle plus fort, Marlène.
Le Seigneur.
Ah, là, au moins, il dort pas, au moins. Non, c'est vrai, le plus gros pardon qui a eu lieu, et ce pardon-là, on le méritait pas. Aucunement. C'est Dieu qui l'a fait. Il a envoyé son Fils à la croix. Il a payé pour nos péchés. Toute la gang. Il n'a pas laissé en retard. Mais qu'est-ce qui est encore beaucoup plus beau? C'est que le Père l'a ressuscité, nous démontrant qu'ils ont vaincu même la mort. Mais qu'est-ce qui peut vous empêcher de vivre votre vie nouvelle en Jésus-Christ? Qu'est-ce qui peut vous empêcher? Rien. parce que Dieu a tout prévu. Marquez ici, tout est accompli en haut de moi. Là. Cherchez pas à bâtir un nouveau livre avec votre vie de la Bible. Mais non, tout est accompli, tout est prêt, tout est là. Il suffit simplement de le prendre. Dans le chapitre 5, les versets 1 à 21, Paul nous parle d'imiter Dieu en marchant dans la charité à l'exemple de Christ, de ne pas être impudique, cupide, idolâtre, que personne ne vous séduise par de vains discours. Ah! La preuve de tout cela, les amis, qu'il y a des vains discours et qu'il y a beaucoup de personnes qui adhèrent à ça. Combien il y a de religions sur Terre? Hein? Ça, c'est tous des influenceurs qui ont influé les gens. Ils ont commencé probablement par quelques versets bibliques. N'oubliez pas que c'est la ruse aussi de Satan, ça. On commençait par quelques versets bibliques et tout doucement, ils ont entraîné hors de Dieu, hors de Jésus-Christ, hors de la Bible, hors de la vie. Ils les ont emmenés dans une religion qui les emmène tout droit vers l'ennemi. Donc, imitons Dieu à l'exemple de Jésus-Christ qui nous l'a démontré dans toutes les Écritures. Et ne cherchons pas à avoir des beaux discours, mais des discours vrais, sincères et honnêtes. Quand on parle à notre voisin, là, n'allez pas lui dire quelque chose qui n'est pas vraiment dans les Écritures, parce que si lui, il va vérifier dans les Écritures, il va vous traiter de menteur, et il va avoir raison. Il faut faire très attention à ce qu'on dit, même à nos enfants, à nos petits-enfants. C'est important parce que leur vie en dépend. Marcher comme des enfants de lumière. Et Yolande va nous emmener le verset 10. Si on marche dans la lumière, ça dit quoi? Examiner ce qui est agréable au Seigneur. Comment ça se fait, ça? De quelle façon vous pouvez examiner? Quel point de référence vous avez pour examiner? Hein? Il y en a d'autres qui commencent à se déjeuner un peu, là. Hein, Pamela? Go! Hein? Oui, la Bible. Et c'est pour ça que c'est important. Et c'est pour ça que ce matin, je fais un survol sur l'Épître aux Éphésiens, parce que c'est une des épîtres qui nous rappelle et qui nous demande qu'est-ce que Dieu a tout fait et de quelle façon on peut accéder. Ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Un jour, n'oubliez pas, si vous avez fait une gaffe, vous l'avez caché, vous ne l'avez pas confessé ni à Dieu ni à personne, un jour elle va paraître. Et là, ça va être raide. Ça va être humiliant. Ça va être dur. Au contraire, on devrait penser que nos frères et sœurs, c'est Dieu qui les mène. C'est pas l'orgueil et tout ça, c'est Dieu qui les mène. Eux aussi essayent de découvrir toutes les facettes de Dieu et de Jésus-Christ. Et bien sûr, eux aussi ont l'aide du Saint-Esprit pour cela. Donc, on ne devrait pas avoir peur, quand on fait une gaffe, d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher le pardon. On ne devrait pas avoir peur de cela. Le verset 16, Madame Yolande. Rachetez le temps. C'est bien ça, oui. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Pouvez-vous me dire quel jour qui est bon?
Il est mort.
Il est certain qu'il n'est plus capable de faire rien, là. Hein? Quel jour est bon? C'est le jour où vous allez le consacrer à Jésus-Christ. Ce jour-là, même s'il y a des épreuves, même s'il y a toutes sortes de choses, ce jour-là va être bon pour vous. Et pour le reste de l'humanité, pas nécessairement bon. Le verset 19, s'il vous plaît, Yann. Il faut s'entretenir, un et l'autre. Entraînez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de votre cœur les louanges du Seigneur. Ce qu'on fait ce matin, on a chanté. Marlène nous a emmené les chants justes. Et ça, c'est super parce que je lui avais donné seulement le titre Survol, Épître aux Éphésiens. Et le Saint-Esprit et Dieu ont fait le reste avec elle pour qu'elle nous apporte ces chants-là. Et ça, ça fait partie de l'Église. Ça fait partie de l'Église, de la vie d'Église. On n'a pas à être tout seul dans l'Église. On a besoin de chacun, des autres. Quand, si vous ne seriez pas là, moi, à qui je prêcherais matin? Aux chaises. Vous savez, une fois, quand on change d'heure, ça a failli arriver à l'Église baptiste évangélique de Laurentide. Ils ont arrivé une demi-heure plus tard. Je pensais quasiment que j'allais prêcher aux chaises ce dimanche-là. Mais c'est des choses qu'on doit comprendre, qu'on doit saisir, qu'on a besoin des frères et sœurs qui soient là quand on partage la parole de Dieu ou simplement qu'on fait un partage. C'est besoin d'être là. Dans les versets 22 et suivants, Paul nous parle de la soumission de la famille et quelle position chacun et dans quel but précis. C'est certain qu'ils vont parler tout de suite de la soumission de la femme. Moi, je ne suis pas rendu là dans ce moment-là, dans l'évaluation ici. Je suis là dans le sens que quand un homme et une femme se marient devant Dieu, ils forment quoi?
Deux.
Verset 27, Yolande, s'il te plaît. Dans le but qu'il veut, que je vous ai dit, nous parle de la soumission de la famille, quelle position à chacun et dans un but précis, le verset 27 est le but précis, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Je pense que le Seigneur, il y a du travail. Parce qu'on a encore à apprendre. On a encore probablement quelques pardons à demander. On a encore quelques raccordements, peut-être avec un frère, une sœur, un enfant. Peu importe. Mais on a besoin de ça. Et aussi, Yolande, s'il vous plaît, le verset 31. Et là, ça, c'est très important. Et le coup, là... Hein, c'est très important, le verset 31. Tu disais deux, toi, Timothée? Hein? Tu disais deux? Regarde le verset. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. N'oubliez pas, quand vous mariez dans le Seigneur ou autre, c'est comme si les deux êtres s'uniraient, se marieraient devant Dieu et devant les hommes pour servir Dieu. C'est certain qu'il y a toutes les choses qui viennent avec, il y a les enfants, il y a l'amour, il y a tout cela, mais le but prioritaire est de servir Dieu dans sa famille. Et le dernier chapitre, ouf, ça va arriver juste. Le dernier chapitre, dans les versets 1 à 9, Paul parle de la relation entre enfants et parents. Le verset 3, s'il vous plaît, Mme Yolande. Et ce verset-là est important. Hein? Afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps sur la terre. Vous voulez savoir la cure de jeunesse la plus possible? C'est celle-là. C'est celle-là. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Dans quel but? Dans le but que tu sers Dieu. Il dit au Père aussi de ne pas irriter les enfants, mais de les instruire selon le Seigneur. Il ne nous a pas dit d'instruire selon toutes les PPO d'éducation qu'on a, d'éduquer nos enfants. Le Seigneur, ici, il nous dit de les éduquer selon lui. Il nous parle de l'obéissance des serviteurs envers leur maître. Ça ne regarde pas trop le Québec, mais le Seigneur en parle. Le verset 5, s'il vous plaît, Madame Yolande. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Dans notre travail, dans nos affaires qu'on fait, on devrait travailler et utiliser toutes nos ressources comme pour plaire à Jésus-Christ. Et si Jésus-Christ l'a mis au dernier rang de notre vie, il risque de passer bien loin après. Et pourtant, on devrait travailler et gérer nos vies comme Christ a été fidèle à son Père dans l'obéissance jusque la croix. Le verset 6, s'il vous plaît, Madame Yolande. Il nous dit, c'est non pas seulement sur leurs yeux. Ah oui, il y en a qui... Ce qu'ils voient, ce qu'ils ne voient pas, c'est pas grave. Il faut qu'ils voient les bonnes choses. Ça non plus, c'est pas correct. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Et le verset 9, s'il vous plaît, Madame Yolande. Et bien sûr, si vous êtes boss ou patron, ou peut-être à la tête de quelques personnes, le verset 9 nous dit, « Et vous, maître, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces. » Si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas ta paye la semaine prochaine. Savez-vous que j'ai vécu ça? On a failli être obligé d'aller en cours pour avoir une paye d'à peu près 400 $. C'est intéressant des fois de lire les Écritures qui nous révèlent beaucoup de choses sur nous et tout ce qui se passe à travers le monde. Donc, un patron. Et je remercie Dieu pour mon fils. Ses patrons, c'est des chrétiens. Et Serge, il dit qu'il n'a jamais eu tant de plaisir à travailler que cette chope-là. Il dit c'est toute une différence de climat, de discussion et de d'autres, et d'autres choses aussi. Il aime sa job parce qu'il peut parler de Dieu à la job. Ça aussi, c'est intéressant quand on réalise ça. Puis ça, mais je vois Gilles, Timothée, James, Philippe, parler de troc ensemble. Ils ne doivent pas se garocher les outils un à l'autre, non? Ils doivent plutôt s'accorder, veut dire s'aider un et l'autre. En tout cas, j'espère. Je ne les ai pas vus. Le Seigneur dit qu'il faut vivre d'espérance. Fait qu'on voit. Et c'est toujours une chose importante. Dans les versets 10 à 24, les derniers, et on finit avec ça. Pour nous, Paul nous écrit de se fortifier en Jésus-Christ pour revêtir l'armure du Seigneur. Si ça va mal, il y a toutes sortes de choses. N'oubliez pas que dans les Écritures, vous avez une armure qui vient de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et Paul lui demande de prier pour lui. Dans le temps, c'était normal. Mais ça veut dire aussi que je vais prier pour Jean-Marc, mais qui emmène l'étude. Et je vais prier pour Paul, mais qui emmène l'étude, Michel. Et j'espère qu'ils vont prier pour moi. Ici, Paul, il demande des prières pour lui avec raison. Il y avait plusieurs églises, plusieurs lettres d'écrit, et il y avait besoin que le Seigneur le renforce. Le verset 23, Madame Yolande. Que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu, le Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Le verset 24. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Qu'est-ce que ça veut dire, inaltérable? Hein? Il y a la bonne réponse. Il y a d'autres aussi synonymes qu'on pourrait dire de cet amour-là. Elle est incorruptible. Elle ne se corrompt pas. Il n'y a personne qui peut détruire. Fait que si on aime notre femme comme ça, là, messieurs, Dieu nous demande aussi dans les Écritures d'aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné pour elle. Et je finis avec ça, la suite de l'étude de l'Épître aux Éphésiens, cette fois, verset par verset, va se faire à partir, si je ne me trompe pas, de mercredi le 11. C'est ça, c'est la bonne date, je pense. Mercredi le 11, on va commencer avec le premier chapitre, les premiers versets, et on va découvrir tranquillement qu'est-ce que la petite madame de la photo elle a découvert. C'est dans le but de nous aider peut-être à remettre quelques pendules à leur place. Et vous savez, j'en ai besoin autant que vous autres. Hein? J'ai pas fait, Dieu ne m'a pas donné cette étude-là parce que moi, je suis parfait, là, oubliez ça. Là. Au contraire, j'en ai besoin. J'ai besoin encore de redécouvrir comment Dieu m'aime, de redécouvrir comment il veut m'aider, de découvrir comment il peut m'amener dans différentes situations où qu'il va me montrer, il va me montrer comment lui va réussir à m'en sortir. Et cette étude-là a aussi le but de découvrir, faire découvrir vraiment qui qu'on est, qui qu'est Dieu, qui qu'est Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Et les ministères que Dieu nous donne. N'oubliez pas que les dons que vous avez, et je sais que vous en avez, Dieu n'a pas laissé aucun de ses enfants sans don. Alors, n'oubliez pas que c'est le Saint-Esprit qui le donne, et il donne à qui veut. Ça veut dire, comme moi, si vous êtes docteur des Écritures, ben là, ça serait une autre histoire. Mais je n'ai pas à désirer ça. Je désire qu'est-ce que Dieu me donne. Je n'ai pas à dire au Seigneur, ah ben, tu m'as donné ça, moi, je voudrais avoir ça. Je n'ai pas à dire ça non plus. C'est Dieu qui décide. On va prier. Papa du ciel, on est heureux ce matin, Seigneur, dans tes Écritures, avec ce petit survol, c'est un petit peu d'explication, Seigneur. Tu as béni nos cœurs, tu nous as réjouis, tu nous as peut-être aussi un peu surpris, mais Seigneur, tu es toujours là, tu es toujours présent, et tu es toujours là pour nous aider au moins d'inquiétudes, au moins de questionnements et tout, Seigneur. Puissons-nous se référer toujours à toi et non, Seigneur, aux références humaines, aux références du dehors. Permets, Seigneur, qu'on te soit fidèle et aide-nous à le rester. Comme tu dis dans ces Écritures, on veut te servir, mais on est toujours des serviteurs inutiles. Merci, Seigneur, de nous bénir. Merci de nous aider à grandir, de nous fortifier et de nous aider, Seigneur, à arriver à cette stature que tu veux qu'on soit comme ton Fils. Et c'est au beau nom de ton Fils Jésus-Christ qu'on te prie et te remercie, Seigneur. Amen.